Bonsoir à tous et à tous. Merci à la FASTI pour cette soirée. Merci aussi à la FASTI pour son engagement sur la question des Sahara occidentales depuis toujours, je dirais, et plus récemment, de manière active, à la fois à la plateforme de solidarité avec le Sahraouis, dans d'autres réseaux. Et aussi, je salue aussi l'engagement de l'ASDOM et à travers l'ASDOM, tous les progressistes marocains qui, dans les années 70, ont contribué à la fois par leur solidarité avec les prisonniers politiques sahraouis par rapport à ces passes au Sahara occidental, de faire connaître cette cause à la fois au Maroc et ailleurs. Donc, c'est un peu facile de parler après Ayed parce que la plante et le décor concernant le Maroc. Donc, moi, ça va me rapprocher directement au Sahara occidental. Je ne suis pas obligé ce soir de parler de ce qui se passe au Maroc. Et donc, vu ce qu'il a dit, on peut un peu comprendre. Donc, avant de commencer, moi, je veux juste rapidement, en fait, si vous me permettez, juste sur les chiffres Ayed, quand il dit qu'il y a 260 prisonniers, moi, je dis qu'il y a plus. Pourquoi ? Je m'amuse avec les calculs parce que si on considère les 70 Sahraouis sur une population de 800 000, ça nous fait un chiffre de 2600 Sahraouis. Donc en tout, il y a plus de 2800 prisonniers politiques au Maroc, dans les prisons marocaines, arrêtés par le Maroc. Donc, il faut vraiment parler de ce qu'il faut rapporter à la population sahraouie parce que ces gens-là, ils sont arrêtés parce qu'ils sont Sahraouis, parce qu'ils défendent un droit à l'autodétermination. Donc, je pense que là-dessus, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de doute que c'est des prisonniers politiques. Donc, si on dit qu'il n'y a que 70, c'est peu. Mais rapporté à une population de 800 000 par rapport à 30 millions de Marocains, on voit que c'est énorme. Ça fait 2600. C'est comme s'il y avait 2600 prisonniers politiques marocains aujourd'hui. Et donc là, les chiffres parlent autrement. Je vais y revenir. Donc, juste rapidement sur le Sahara occidental, quelques repères pour parler de la question qui m'a été posée par Vanessa sur la détention politique, la répression politique et les prisonniers politiques. Donc, quelques repères, en fait, pour expliquer. Le Sahara occidental, ça se situe au sud du Maroc, au nord de la Mauritanie. C'est un territoire de 260 000 km², habité par environ, je dis, il n'y a pas de chiffre officiel, 800 000 à 1 million. Et donc, rapidement, c'est pour placer le curseur historique à 1884 et la conférence de Berlin. Le Sahara occidental revenait à l'Espagne, il s'appelait à l'époque le Sahara espagnol. En 1965, le Sahara occidental est inscrit à l'Assemblée générale de l'ONU comme territoire à décoloniser. En 1975, il y a la Cour internationale de justice qui y met un avis, qui dit qu'il n'y a pas de lien de souveraineté entre le Sahara occidental et la Mauritanie, ni entre le Sahara occidental et le Maroc. Donc rien n'empêche l'application des principes de l'autodétermination au peuple du Sahara occidental. 1975, toujours au mois de novembre, il y a la marche verte où le Maroc, le régime de Hassan II, a envahi le Sahara occidental, a envahi les militaires, et avec tout ce prétexte d'une marche verte pacifiste, alors qu'en 2008, un excellent journal marocain tel quel a fait un excellent reportage comme quoi les marcheurs ont dépassé la frontière de 8 km, ils ont fait demi-tour. Donc juste parce qu'il y a certaines vérités que les gens ont l'impression que les marcheurs sont arrivés jusqu'à la Youn, alors que c'est archi fou. Ça a été démontré par un reportage d'un magazine marocain. Donc pour moi, c'est important. Et donc il y a eu la guerre de 1975 à 1991 entre le mouvement de libération, le Front Polisario et le Maroc. 1991, un cessez-le-feu, dont l'objectif d'organiser un référendum pour les Sahraouis. Malheureusement, ce référendum n'a pas eu lieu. Donc là, depuis plus de bientôt 23 ans, on est dans un processus de négociation. L'ONU saisit, le Conseil de sécurité saisit cette question pour trouver une solution. Mais là, on est presque devant l'impasse parce que la communauté internationale n'arrive pas à avancer sur cette question. Et principalement, de notre point de vue, principalement, c'est lié, c'est pas le Maroc, mais c'est lié plutôt à la position française. Parce que sans la France, sans la position française, le Maroc n'aura pas les moyens de faire pression sur le Conseil de sécurité ou sur l'Assemblée générale de l'ONU. Et plus récemment, donc ces dates-là, c'est 91, plus récemment, il y a trois dates qui me semblent un peu importantes à citer. C'est que depuis 2005, il y a un changement dans ce processus par rapport au Sahara occidental. C'est qu'à un moment donné, c'était le Front Polisario, le Maroc. On regarde beaucoup les camps de réfugiés parce qu'il y a environ 200 000 réfugiés au sud-ouest algérien. Et on regarde beaucoup les camps de réfugiés, le Front Polisario, le Maroc, mais on a oublié la partie des territoires occupés par le Maroc. Et depuis 2005, il va y avoir des soulèvements, la jeunesse 2005, qui va soulever, qui va dans la rue, Il va un peu braver les autorités en brandissant des drapeaux, en taguant sur le mur leur appartenance au Front Polisario, à la République arabe saharaui démocratique. Et ça, c'est un nouveau paramètre qui va rentrer en jeu, même aussi dans les calculs à la fois des autorités marocaines et à la fois aussi par rapport à la communauté internationale. Parce que jusqu'à 2005, ce paramètre était mieux connu. Pourquoi mieux connu ? Parce qu'il faut le rappeler, avant 2000, par exemple, on ne pouvait pas appeler à l'Aïoun ou être appelé à l'Aïoun. C'est-à-dire que quelqu'un à l'Aïoun de Sahara occupé ne peut pas appeler l'étranger. Donc il y avait un blocus, mais depuis 2000, ça a été un peu débloqué. Il y a aussi l'arrivée des nouvelles technologies qu'on avait avec le printemps arabe, mais ça a commencé chez nous dès 2015. Ça permet aux jeunes de poster des vidéos de ce qu'ils font. Et donc ça fait qu'on a un soulèvement populaire depuis 2005. Et ça va continuer ce processus jusqu'à, pour moi, l'apogée de ce processus, c'était en 2010. Novembre 2010, il y a 20 000 Sahraouis qui vont sortir à 12 km à l'est de l'Aïoun. Et tout simplement, ils vont demander des droits socio-économiques. Mais la revendication politique, elle était là. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y avait côté Sahraoui, one. Deux, parce qu'ils ont choisi un mode de protestation propre aux Sahraouis, c'est-à-dire la tente Sahraoui. Et donc, ils ont installé presque de 3 000 tentes avec 20 à 30 000 personnes qui ont participé à ce campement pendant un mois. Moi, j'ai bien m'amusé un peu avec les chiffres. 20 000 personnes, c'est rien. Hein. Mais si on le rapporte à la population marocaine, c'est plus d'un million de personnes qui ont protesté pendant un mois pour réclamer, soit aller, soit pour ne pas faire de polémique, que pour des droits socio-économiques. Si ça se passe ailleurs dans le monde, tout le monde va en parler. Par exemple, en France, personne n'en a parlé. Ce camp-là, il a été démantelé de la force le 8 novembre 2010. Donc, dans une violence, c'est-à-dire à la fois de le campement et à l'Aïoun, qui a coûté la vie à 12 Sahraouis et à 11 membres de forces de l'ordre marocaines. Et suite à ça, il y avait 150 personnes arrêtées. Petit à petit, ils étaient libérés. Avec 25, ils étaient condamnés devant un tribunal militaire. Et le 17 février 2013, l'année qui vient de passer, depuis 1977, ou bien voir les années 80, un tribunal militaire marocain condamne des civils pour des raisons politiques à perpète. Il y avait des peines de perpète, de la perpète à 20 ans, de 20 ans à la perpète. Et ça, par exemple, pour les progressistes marocains, pour les gens qui travaillent sur le Maroc, qui connaissent le Maroc, c'est pas arrivé depuis les années 80. C'est un retour aussi en arrière, comme l'expliquait Aya tout à l'heure, à la fois sur le respect des droits de l'homme au Maroc. Et pour moi, cet exemple lui-même mérite d'être bien analysé, comment depuis presque 30 ans, on revient à des condamnations comme celle-là, et par un tribunal militaire, on sait très bien, pour des prisonniers politiques, pour leur opinion, alors qu'on a fabriqué des dossiers, comme quoi c'est des gens qui ont tué, qui ont fait des... comme d'habitude. Et donc, voilà un peu par rapport à cette, un peu l'histoire des Sahara occidentaux jusqu'à aujourd'hui. Et donc, concernant la partie, la détention politique ou la répression politique au Sahara occidental, moi, personnellement, je représente en France l'association des familles des prisonniers disparus sahraouis, donc on travaille sur cette question. Et pour moi, il y avait plusieurs phases. Il y a déjà une phase de 1975 à 1991. Cette phase-là, il n'y avait pas de procès. Il n'y avait que la disparition automatique. Toute personne sahraoui qui revendique son appartenance au Front Polisario ou qui réclame, ou qui autoproclame, qu'il est pour l'autodétermination du peuple sahraoui, il y avait la disparition, à part un seul procès. Un seul procès qui a eu lieu en 1980, des gens qui étaient arrêtés en 1977. Donc jusqu'à 1991, il y avait presque, avec le contrôle des camarades, il y avait automatiquement tout Sahraoui, c'est la disparition forcée. Et ça nous ramène un chiffre. Nous, on a recensé plus de 4500 disparus. Si je ramène ça à la population marocaine, c'est l'équivalent de 160 000 disparus. C'est un peu, ça se rapproche des chiffres pour les Kurdes. C'est les gens qui connaissent un peu la question. Ça se rapproche, ils ont un chiffre comme celui-là de disparu. Plus de 120 000. Donc c'est l'équivalent à 4500. Aujourd'hui, il en reste toujours 550 qui sont disparus. Au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 550 qui sont disparus. Et je veux revenir sur cette question de disparus parce que ça va un peu, pour faire le lien avec l'intervention de Ayad, sur le travail qui a été fait par cette instance, instance qui était réconciliation, et les dernières découvertes de cette année sur des fosses communes au Sahara occidental. Et de 1991 à 2005, je pense, là, il y a une période de flottement. Il y a eu pas, je pense pas qu'il n'y a pas beaucoup de cas de disparition, mais il y avait quelques procès. Je pense aussi, c'est un peu les gens qui connaissent un peu la réalité politique au Maroc, c'était la phase où Hassan II préparait la transition. Donc, on sait, l'ouverture à partir de 1994 jusqu'à 2002, l'arrivée. Donc, à cette phase-là, il y avait moins de procès, il y avait moins d'argent. Mais à partir, par exemple, de 2005 à 2010, là, on va changer. Donc, il va y avoir des procès. Beaucoup de procès sont fabriqués, c'est-à-dire droit commun. On évite pour qu'il y ait des Sahraouis condamnés pour leur opinion par un cas ou deux qui s'est passé de 2005 à 2010. À partir de 2002, il y avait un dossier ou deux qui était vraiment pour appartenance à. Où il y a intelligence avec l'ennemi. Là, on sent un peu qu'il y a de la notion politique, mais la plupart, c'était de la drogue, c'était des attroupements non autorisés, c'était des cases, des choses comme ça. En fait, toujours, on essaie de ramener ça au droit commun. Et jusqu'à, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 2010, où avec ça, on rentre aussi dans une autre phase, pour moi, c'est le tribunal militaire, et c'est pas c'est-à-dire ça a été en 2013, et où, là, on vient d'arriver aussi à un autre cas qui a été arrêté. Et au mois d'août, fin août, il me semble, et qui est devant un tribunal militaire. Alors que, pendant que les Sahraouis étaient devant le tribunal militaire au mois de février, le Conseil national des droits de l'homme marocain fait des propositions au roi pour qu'on fasse une réforme pour que les civils ne soient plus traduits devant un tribunal militaire. Là, ben, les militaires continuent à faire traduire un Sahraoui devant un tribunal. Et pourquoi ? Je vais revenir pourquoi, parce que c'est un cas très spécifique. Donc c'était un peu. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les disparus, au mois de juin dernier, notre association, avec des experts espagnols, une université espagnole, ben on a fait la découverte d'une fosse commune de 8 personnes, dont 2 mineurs. Ces 8 personnes ont été tuées par balle par des soldats marocains. Il s'avère que ce monsieur-là, qui est traduit aujourd'hui, Daoud Embarque, devant un tribunal militaire, il affirme qu'il, parce qu'il était avant soldat, parce qu'il était engagé dans l'armée marocaine. À un moment donné, il faut aussi l'expliquer. Que les Marocains sont arrivés en 1975, ils ont forcé des gens à rentrer parce qu'ils ne connaissaient pas le terrain. Ils ont forcé des Sahraouis qui étaient là, qui étaient des bergers, qui n'avaient pas de travail, à travailler pour être des soldats. Donc lui, il affirme qu'il était là au février 1976. Il a assisté à ce massacre. Et donc, il y avait un travail pour le faire sortir en Europe, pour qu'il témoigne. Et tout de suite, fin août, on l'arrête. Et là, on l'arrête tout de suite. Il est devant le tribunal militaire. Pourquoi ? Parce qu'il a quelques cartouches d'une arme de chasse qu'il a vendue il y a 5 ans. Et il est en possession d'une arme que son grand-père a utilisée contre la colonisation française, je pense dans les années 40, parce qu'il l'a gardée chez lui à l'Axavie. Mais le but, c'était de l'empêcher de sortir, de parler, parce que c'est un cas. Pourquoi c'est important aussi ? Parce que l'instance qui était réconciliation, il a reconnu, pour ces 8 personnes-là, au moins de 4 parmi eux, il a reconnu qu'ils étaient morts dans une caserne marocaine. Alors là, ils ont reconnu avec les noms par rapport à leur famille. Alors là, avec les tests ADN, on trouve non, qu'ils sont dans les territoires libérés par le Front Polisario Mujahidin, qu'ils étaient, avec les analyses ADN, avec les autopsies, qu'ils étaient tués par balles. Et donc, ça remet en contradiction tout le travail de l'IR. Et c'est là, moi, je suis intéressé avec Ayad et avec d'autres camarades marocains qui sont ici, parce que tout le travail, toute cette campagne médiatique sur le respect des Marocains, des droits de l'homme à travers l'IR, parce qu'ici en France, partout, on va mettre en avant, c'est quoi ? L'instance équité réconciliation qui a tourné la page des années de plomb et par la suite a donné lieu au CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, pour appliquer les recommandations de cette instance. À partir du moment-là, on a le cas précis, factuel, c'est-à-dire il n'y a pas de discussion là-dessus, que ce travail d'hier, il était pour moi truqué, qu'il y avait des failles, parce que même il y avait des grandes failles, il y en a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord, même côté marocain. Et aujourd'hui, qu'on vient nous dire que le Maroc paye des droits de l'homme, qu'il va au Conseil des droits de l'homme, que le Maroc, en 2014, va accueillir ce forum des droits de l'homme, c'est pour moi, c'est une insulte à toutes ces personnes, à toutes ces familles, à toutes ces victimes. Donc voilà un peu par rapport à cette histoire de dimension politique. Maintenant, sur l'actualité un peu. Aujourd'hui, on a 72 prisonniers politiques sahraouis dans différentes prisons. Que ce soit à Rabat, à Itmelloun, Yazdegna, les gens qui connaissent, à Laayoun, à Tiznit. Et donc, j'ai parlé de ce tribunal militaire pour Mbak Daoudi, que hier, il y avait une audience qui a été reportée samedi, sans date, parce que absence des pièces de conviction. Parce qu'on sait qu'il n'y en a pas. Il faut le temps de les fabriquer ou de les trouver. Mais le but, pour moi, le but là, il le maintient. D'autres, pour éviter tout contact avec l'extérieur, pour ne pas témoigner par rapport à ce dossier. Parce que c'est un des dossiers, parce que je pense aussi que les camarades marocains commencent aussi à revenir à cette question du disparu. Parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire, il y avait toute une lutte Et à un moment donné, je pense, les gens étaient fatigués, mais je pense aussi qu'ils commencent à revenir sur le devant de la scène. Et je pense parce qu'il n'y a pas qu'au côté sahraoui, il y a aussi des disparus marocains qu'on ne sait pas leur sort, leurs familles n'ont pas récupéré les dépouilles. Voilà, donc je pense que ce dossier va revenir sur le devant de la scène et on voulait empêcher Mbak Daoudi de témoigner. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on a, on a, par exemple, dans les territoires occupés, on a toute une coordination des associations de droits de l'homme qui a lancé une campagne pour que la MINURSO, c'est la mission de paix qui était chargée de le référendum, mais c'est elle qui surveille le cessez-le-feu actuellement et chargée aussi du référendum, que cette mission soit dotée d'un mécanisme pour la surveillance des droits de l'homme. Donc ils ont lancé une campagne, donc il y a des manifestations presque toutes les semaines, et pareil, ça continue la répression. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure sur l'histoire de la répression, c'est à partir de 2005, le Maroc va changer. Aujourd'hui, il a appliqué chez nous au Sahara occidental, tout de suite après le 20 février, j'ai eu des discussions avec des jeunes fabricants, on commence à l'appliquer de Maroc. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? On va prendre les jeunes dans une fourgonnette, ils vont passer 4 heures, on va les tabasser, on va les matraquer et on va les jeter. Donc même nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, on n'a rien sur quoi. Ils n'étaient pas au poste, il n'y a pas de garde à vue. Ce n'est pas une disparition, c'est 4 heures, ils te trouvent dehors. Parce que s'il reste 48 heures, 24 heures dans un poste, en tant que défenseur des droits de l'homme, on peut aller sur place, on va chercher, on va voir quand il est sorti, on prend des photos aujourd'hui. Non. On change de méthode carrément. Et là, par exemple, tous les jeunes de 18 ans à 30 ans, c'est leur sort. C'est-à-dire qu'ils vont passer 2 heures, entre 1 heure et 4 heures, dans un fourgonnette qui va faire le tour de la ville ou à l'extérieur, tabasser ta tête, et on va le jeter. Et donc, ces nouvelles techniques, ils l'ont appliqué. Moi, j'ai discuté avec des jeunes à Tunis, de la Forum Sahel Mondial, avec des jeunes du 20 février, ils ont appliqué les mêmes méthodes, avec d'autres méthodes que le régime marocain maîtrise très bien, c'est les pressions par les parents, par les familles, par le travail. Il y a plein de pressions par-ci, par-là. Il y a toute une pression psychologique aussi sur les militants pour que, à travers les parents, à travers un oncle, à travers un cousin, pour éviter qu'ils parlent. Donc voilà un peu sur l'histoire des prisonniers politiques, leur situation actuelle. Ça. Et avant de finir, si tu me permets, Vanessa, juste 2 minutes un peu, parce que tu as posé la question sur le rôle de la France et le rôle de l'Europe. Pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, la France est responsable. Responsable à deux niveaux pour moi. Déjà par rapport à ça, parce que par rapport le maintien de ce conflit de Sahara occidental, ils n'ont pas joué son rôle, parce que c'est le pays, pour moi, du Conseil de sécurité qui est plus proche de la région. C'est un pays des droits de l'homme quand même. C'est un pays, pour moi, qui doit jouer de son rayonnement dans la région pour faire avancer. Donc, c'est déjà par rapport à nous au Sahara. Oui, aussi, pas que nous au Sahara, aussi en tant que Maghrébins. Parce que tant que le conflit du Sahara occidental n'est pas réglé, l'espace maghrébin ne sera pas construit. Donc il y a pour moi double responsabilité de la France dans ce jeu qu'il fait en favorisant le Maroc, la position marocaine. Et parfois c'est contradictoire. Je vais raconter une anecdote. L'année dernière, on est parti voir le ministère des Affaires étrangères. On était reçu par des fonctionnaires. Et on leur demande beaucoup d'ONG. Il y avait des ONG marocaines. Il y avait la MDH, l'Association marocaine des droits de l'homme, et 11 qui ont demandé un mécanisme international de surveillance des droits de l'homme au Sahara occidental. Ça répond à la revendication des régimes marocains sur le camp de réfugiés géré par le Front Polisario. Ça répond aux aspirations, aux revendications de Sahraoui sur les terrains. Et là, le fonctionnaire, il nous dit, et qu'est-ce que vous pensez si on laisse au CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, de s'occuper de sa surveillance sous monitoring? Donc à un moment donné, j'ai répondu comme ça, moi je ne comprends pas qu'un Français, un fonctionnaire comme vous, soit un peu en porte-à-faux par rapport à des Marocains eux-mêmes. C'est-à-dire on ne peut pas connaître le Maroc mieux que les Marocains. Si des ONG marocains disent qu'ils ne font pas confiance au CNDH, c'est-à-dire comment la France. Donc voilà, donc nous, on a toujours, c'est-à-dire par rapport au rôle de la France, par exemple, là, il y aura au mois d'avril, le 30 avril, il y a le renouvellement de ce mandat, et la France va jouer de son poids, de sa diplomatie, du tout, pour que dans la résolution, il n'y a rien sur les droits de l'homme qui va, entre guillemets, embêter le Maroc. Et tout sera fait pour qu'il n'y aura pas. Il y aura rien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'année dernière, c'est les États-Unis qui font une résolution pour demander le respect des droits de l'homme dans cette mission, que cette mission sera chargée de. Et là, la France indirectement, l'Espagne, c'est des pays. C'est-à-dire, moi, j'étais un peu. Parce que je suis en France depuis quelques années, j'étais un peu en contradiction. Parce que pour nous, la France est un pays de droits de l'homme, alors que les États-Unis, en Afrique, partout, les États-Unis, c'est capitaliste. Et là, parfois, la France a une position, pour moi, géométrie variable, deux poids, deux mesures. Parce qu'il y a des situations, ce qu'on voit médiatiser et d'autres pas. Par rapport à l'Europe, on le voit récemment, avec le rôle, avec l'accord de pêche qu'elle a signé avec le Maroc. en incluant les territoires sahraouis, alors que même les Américains ne l'ont pas fait. Les Américains, ils ont signé un accord libre-échange avec le Maroc, ils ont exclu les territoires sahraouis. Et donc là, par exemple, l'Europe, elle est aussi complice de cette richesse, parce qu'il y a, principalement aussi pour la pêche, mais il y a aussi d'autres ressources qui arrivent, il y a des tomates, il y a des choses qui arrivent aussi, des fermes, qui se ferment, c'est qui? C'est le roi, c'est le domaine royal, c'est même pas des Marocains qui en profitent, mais c'est toujours le même qui en profite, c'est le premier agriculteur au Maroc. Et donc la France, en fait, pour moi, joue un rôle important sur ce dossier-là. Et aussi, je remercie la FACI parce qu'on a cette occasion d'en parler, parce que si on constate ici en France qu'il y a un blackout médiatique à la fois sur le Sahara, c'est même ce qui se passe au Maroc. Parce que depuis Gilles Perrault, depuis Daniel Mitterrand, aujourd'hui, on a l'impression que rien ne se passe au Maroc. Alors, comme l'a expliqué Ayad, il y a une répression continue, il y a une tension socio-économique, sociale au Maroc, la situation n'est pas terrible, selon beaucoup d'analystes, et on a l'impression de rien dire. Et pour moi, le max de ça, c'était quand Sarkozy a perdu, il fait ou quoi? Il part 3 semaines à Marrakech, offert par le roi, et ça ne fait pas scandale en France. Non, c'est comme s'il est parti au sud de la France, comme s'il est parti en Bretagne. C'est-à-dire, imaginons que s'il est parti en Arabie Saoudite, ça aurait fait... Non, il part au Maroc, c'est normal. Donc, il y a tous des intérêts, en fait. Il y a à la fois, pour moi, il y a des intérêts économiques clairs qu'on trouve à travers Bouygues, à travers Vivendi, à travers Accor Hôtel, à travers AXA de l'assurance, à travers l'Alliance des Eaux. Même aujourd'hui, on a GDF, EDF et GDF qui s'intéressent aux énergies renouvelables, et même au Sahara occidental, c'est-à-dire même le soleil qui appartient aux Marocains au Sahara aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vont aussi le travailler pour qu'il passe en électricité et le vendre pour l'Europe. Donc, ou le vendre aussi. Donc il y a ça. Il y a aussi des intérêts géostratégiques pour moi. Il y a aussi des intérêts géostratégiques de la région, la France. Pour moi, c'est mon analyse, toujours, je l'ai dit toujours, c'est que pour l'instant, on a toujours en France une classe politique qui n'a pas digéré la guerre d'Algérie. Je dis, je répète. Et qu'elle n'est pas prête de voir un espace maghrébin qui se construit. C'est-à-dire, je suis parmi les premiers qui vont critiquer l'Algérie ou le régime actuel, mais qu'est-ce qu'on en dit si demain, même si on fait un référendum, les Sahraouis choisissent d'être marocains, l'espace maghrébin, son leadership, il sera conduit par l'Algérie. Et la France ne veut pas avoir en face l'Algérie qui va négocier, que ce soit avec la France et avec l'Europe. Donc voilà un peu rapidement sur ce que je peux dire sur les prisonniers politiques sahraouis. Donc ça fait beaucoup. Je donne un peu quelques chiffres rapidement. En fait. Je parlais des disparitions forcées. Donc aujourd'hui, il y a plus de 560. Donc l'équivalent de 20 000 Marocains disparus. C'est une perméaillette. Et on a 72 prisonniers politiques. C'est l'équivalent de 2600 prisonniers politiques. Pour moi, c'est important. Parce que quand parfois on parle, parce qu'une fois aussi à OMAE, c'était ça en fait. Quand on a parlé, on avait à l'époque 40 prisonniers politiques. On nous a répondu, mais bon, c'est pas la Birmanie. Hein, 40 prisonniers politiques, c'est... Mais il faut à un moment donné savoir les rapporter. Donc voilà, merci, je serai là pour les questions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à répondre, à dire à travers des questions-réponses. Merci.